Je m'appelle François Grandin. Je suis né à Saint-Crépin le 20 mai 1763. J'y ai été baptisé le même jour. Ma mère m'a mis au monde dans la pièce commune de notre demeure, une petite maison de la rue principale. C'est là que j'ai toujours vécu. C'est là que les événements terribles de 1793-94 m'ont cueilli. Il était de tradition familiale de transmettre à la génération qui lui succédait l'information que nos ancêtres étaient espagnols et que, partant de Saragosse, ils étaient arrivés en France vers le XIVe siècle. Chaque hiver, lors des veillées au coin du feu, alors que les femmes filaient la laine et que les hommes tressaient des paniers, nous nous serrions devant la cheminée. Nous écoutions pieusement nos grands-parents qui nous rappelaient ce voyage migratoire sur un ton solennel et recueilli. J'en ai toujours douté. Trop terre-à-terre pour avaler cette légende. Je ressemblais à la glaise qui collait à mes sabots. On pouvait m'écraser de certitude. Je restais imperméable aux sornettes et aux contes à dormir debout. Ceci ne servait qu'à embellir la vie des gens sans avenir. Et j'observais mon jeune frère Jean qui se tenait là, assis sur le banc, toutes oreilles dehors, béat d'admiration, les yeux plongés dans des rêves espagnols. Je ne disais rien, je gardais mes pensées pour moi pour ne pas décevoir. L'un des ancêtres de notre pauvre lignée avait certainement voulu agrémenter sa filiation médiocre par une belle histoire. Saint-Crépin, une paroisse des Mauges, sise au carrefour des pays de Vendée, de Bretagne, d'Anjou et du Haut-Poitou. Une bourgade qui relève d'Angers pour le civil et de Nantes pour le religieux. Au sud, l'Abordant, coule une petite rivière appelée la Moine qui s'en vient de Cholet et se faufile au milieu des vallons touffus et boisés pour finir par se mêler aux eaux de la Sèvre à Clisson. Notre terre, une terre de bocage, bien protégée par ses quadrillages de haies, des vents de tempête qu'elle reçoit de l'océan. Des collines, des vallons, des ruisseaux, des taillis, des haies, encore des haies, des petites rivières. Ce bocage n'offre jamais de vue à perte d'horizon. Il nous retient dans des espaces clos, délimités, protecteurs. Il n'existe pas de route bien empierrée par chez nous. Quelques grands chemins, sans doute, mais surtout de nombreux chemins étroits, encaissés, boueux l'hiver, et qui figent à l'été leur fondrière dans une glaise dure. Ils permettent la circulation de ferme en village, de métairie en château. Nous les connaissons bien, ces chemins qui forment une multitude de petits corridors que seules nos charrettes étroites montées de larges roues peuvent parcourir. Les chênes, les frênes et les ormeaux plantés sur leurs tahus les surplombent. Ainsi, les chemins se faufilent en creux, bien dissimulés sous les frondaisons. Des arbres, et encore des arbres, s'élèvent sur le bord des fossés profonds, épaississant les haies, traçant les carrés, les triangles et les rectangles de parcelles strictement délimitées. Les champs sertis dans ce quadrillage produisent convenablement, malgré une terre souvent trop grasse, difficile à travailler. Ils se prêtent aux jachères régulières qui s'étendent sur plusieurs années, jachères qui les recouvrent de bruyères et de genêts, dépassant les 10 pieds de haut. À force de sueur, notre terre produit le seigle, le froment, le sarrasin, la pomme de terre, le chou, les pois, les fèves, la vigne, et puis le lin pour le tissage. Les nombreuses prairies accueillent des troupeaux de bovins ou de vins. Peu appartiennent à ceux qui les élèvent. Mais beaucoup de foyers possèdent une chèvre ou un cochon, de la volaille qui court librement dans les rues et dans les chaumières. Saint-Crépin, en 1793, n'accueillait pas plus de 200 feux, des familles qui toutes se connaissaient, qui se savaient souvent de proches cousinages. Des sabotiers, des bourreliers, des menuisiers, des artisans, des cultivateurs et des fermiers surtout, affairés aux travaux des champs sur des terres qui n'étaient pas les leurs. Cette majorité se contentait d'une existence frugale. Des propriétaires aussi, quelques riches métayers, mais surtout des nobles possédant plusieurs domaines qui, à cause de cela, ne demeuraient pas toujours sur la paroisse. Quelques-uns possédaient une fortune conséquente pour l'époque. Des pauvres aussi. Des indigents nombreux, quelques familles en grande misère qui avaient besoin du secours de notre charité, Nous n'étions pas bien riches, mais ce que nous donnions leur permettait de rester en vie, car nous savions partager. Notre poitrine n'hébergeait pas de cœurs endurcis comme ceux de certains bourgeois que nous connaissions. Leur ressembler, nous en serions morts de honte. Je me souviens que l'on chantait, les femmes et les hommes, en préparant la soupe, en piquant les bœufs dans les chemins creux, on chantait, dans les ateliers et dans les champs. Les mélodies qui traversaient les rues et les haies se reprenaient à la volée. Elles en venaient à se parer de nouvelles harmonies ou bien s'enflaient d'un unisson qui s'élevait comme une colonne de joie vers le ciel. Les marchés et les foires. Nous nous y rendions en famille à Montrevaux ou bien Montfaucon. Ah, la foire de la Saint-Maurice au Pont de Moine. Que de rencontres, que de discussions avec d'autres qui n'étaient pas d'ici, qui nous apportaient les nouvelles de la vie qui se passait en Bretagne, en Poitou ou en Charente. Nous aimions à nous renseigner de la nouveauté, nous buvions les paroles des colporteurs ou des voituriers qui s'en revenaient d'horizons lointains et qui, messagers de l'ailleurs, nous racontaient la France. Nous étions pourtant casaniers, attachés à nos cloches, à notre église, aux fonts baptismaux qui avaient vu se succéder des générations de Crépinois, mais pleins de méfiance pour les figures nouvelles qui traversaient le bourg sans être de chez nous. Méfiant aussi envers les privilégiés, les administratifs, les hommes de robe et de droit, les nobles et les bourgeois qui possédaient les savoirs de l'écrit. Méfiant de ceux-là qui savaient si subtilement manier l'oral qu'ils en aimaient à pointer du doigt l'ignorance des moins instruits d'entre nous, au point de se délecter de leur humiliation publique. Conservateurs, nous l'étions, sans doute un peu trop, par prudence, choisissant de privilégier la sécurité de l'habitude au risque de l'inconnu. Cependant, en définitive, il me semble que nous autres du bocage, nous étions avant tout des hommes libres. J'ai grandi dans une famille où l'on n'étalait pas des tendresses débordantes, mais l'amour était là. Souvent bourru qui se dégageait d'un rire ou qui se détournait pour dissimuler des larmes qui n'étaient pas de mise. Mon père se prénommait François, tout comme moi. En ces temps-là, il était de tradition de toujours léguer son prénom à son fils aîné. François Grandin parlait peu, mais sa main réconfortante se posait souvent sur mon épaule pour me donner confiance en moi-même. Ma mère, Marie Branchu, était la douceur même. Je lui dois mon érudition. On fêtait les naissances, on enterrait les morts. Le bon Dieu jalonnait les heures des longues journées en sonnant les cloches de son église. On priait beaucoup et à voix haute, souvent, quand le clocher sonnait. À 6 heures le matin et à midi pour l'Angélus, et puis le soir encore. Le pater se récitait au milieu des champs ou au pied de l'établi. Et puis on disait le chapelet à la veillée, debout devant le crucifix, accroché au manteau de la cheminée. On regardait notre Seigneur cloué sur la croix en se disant que nos misères n'égaleraient jamais les siennes. La prière, c'était notre seconde respiration. Tout se faisait avec le bon Dieu et avec la Vierge Marie. On nous avait transmis le sens du divin. Dieu était le Créateur, nous étions les créatures. Sans lui, nous n'aurions jamais pu respirer l'odeur des foins chauds qui se doraient au soleil, goûter les premières cerises, jouir de nos fêtes de village et surtout aimer nos parents, nos épouses et nos enfants d'un si grand cœur. Notre Dieu nous avait créés gratuitement. Il était bien naturel qu'on pense à lui tous les jours et le plus souvent possible. On s'y est toujours accroché au bon Dieu, jamais étonné que le malheur arrive. Une vache qui crevait, la maladie qui frappait, un enfant mort-né. La vie était comme ça. Il fallait rester dur à son mal, accepter de ne pas tout comprendre et puis avoir toujours de la patience, de la confiance en Dieu. Mon père m'a transmis son savoir-faire, appris à mesurer, à compter. Il m'a aussi transmis sa fierté. On ne devait pas se courber plus que de nécessité devant l'autorité. Il gardait toujours en mémoire une phrase de Jésus qu'il avait entendue à la messe et qu'il aimait à rappeler. « Ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » Mon fils, rappelle-toi toujours de cela. Nous avons un Dieu dans le ciel, mais aucun maître sur la terre. » À sa suite et à la suite des évangiles et des lettres de saint Paul qui ne disaient rien d'autre, j'ai toujours pensé que tous les hommes étaient égaux. Qu'ils soient papes ou simples baptisés, nobles ou roturiers, représentants du peuple à la Convention ou paysans habitant les Mauges. Seules les fonctions occupées nous distinguaient. Les mentons relevés, les honneurs savourés, les particules appuyées, les chapeaux démesurés ne faisaient que trahir la lamentable expression des vanités humaines. Mon père m'a toujours appris que la liberté devait s'arranger de quelques compromis, mais qu'elle ne souffrait aucune compromission. Si peu savaient lire et écrire parmi les gens simples de la paroisse. Ma mère faisait exception. Elle le devait à l'affection de Madame Dutréan, qui l'avait prise sous son aile. C'était une noble de la gentilhommière du Boisam, pour qui son père travaillait comme fermier. Outre quelques vieux almanachs récupérés je ne sais où, il y avait peu à lire à la maison. Toutefois, dans une armoire, sur la plus haute des étagères, enveloppée dans un grand mouchoir de lin, se cachait le plus précieux trésor que ma mère possédait. Un livre relié, La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoé. Un jour, elle s'était rendue chez un notable de Montfaucon pour qui mon père avait réalisé la charpente de son écurie. Elle devait percevoir la rétribution de ce travail. On l'avait fait entrer dans la bibliothèque où l'attendait le bourgeois et, devant les rayonnages de livres, ébloui, statufié, ma mère était demeurée quelques instants bouche bée. « Vous savez lire ?» avait questionné l'homme, étonné et amusé. Ma mère avait bégayé « Oui, oui !» Puis, sur un ton enthousiaste, elle avait renchéri « Oh oui, comme j'aime apprendre et lire les belles histoires !» Sans doute touché par l'émotion de ma mère, le notable avait répondu « Je vais vous régler ma dette, mais aussi vous faire un cadeau. Il sera la juste récompense du travail de votre époux, mais surtout l'encouragement à développer votre louable curiosité. » Il avait alors tiré de sa bibliothèque l'œuvre de Daniel Defoe, puis l'avait posée solennellement entre les mains tremblantes de ma mère. J'avais à peine 7 ans quand elle sortit ce talisman de son armoire et qu'elle le déposa comme une relique devant mes yeux. Elle commença à en tourner les pages et entreprit de me raconter la fabuleuse histoire de Robinson Crusoé. Elle lisait lentement, faisant glisser son index sous chaque ligne, marquant de son doigt le mot qu'elle soulignait d'une intonation particulière. Quelques pages plus tard, elle refermait le livre. La discussion qui s'ensuivait était toujours la même. J'avais beau la supplier de continuer, impérative, elle me répondait « Nous poursuivrons demain ». À la moitié du roman, je fus tellement impatient de connaître la suite des aventures de Robinson que mes yeux devancèrent son doigt. Sans plus l'écouter, je parcourus du regard la page de droite, tandis qu'elle n'en était toujours qu'à la page de gauche. Elle s'en aperçut vite. Je savais lire. Remplie de fierté, elle me pinça la joue, puis elle se mit à rire de bonheur. Elle m'avait transmis son goût pour la lecture. Grâce à elle et à Robinson Crusoé, et que je dus dévorer une bonne 50aine de fois, je fus l'un des meilleurs lettrés de ma paroisse. En 1790, 9 ans après la mort de mon père, ma mère décéda à son tour. Au dernier soir de sa vie, étendue sur le lit, elle me demanda de prendre le livre dans l'armoire et de lui en lire le début. J'allumai une chandelle et je lui lus la première phrase. En 1632, je naquis à York, d'une bonne famille, mais qui n'était point de ce pays. Ne l'entendant plus respirer, j'arrêtai ma lecture. Maman venait de s'éteindre. Un sourire suspendu à ses lèvres me fit songer à la joie de Robinson quittant son île pour retrouver son pays d'origine. Depuis ce jour, le roman de Defoe ne quitta jamais plus mon pactage. Il m'a accompagné dans toutes mes batailles, et même jusqu'ici, dans cette auberge presque abandonnée par Dieu, au beau milieu des Pyrénées.